Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'annonce d'un diagnostic, au-delà du ressenti et parfois du choc, s'accompagne dans la plupart des cas d'un protocole, de la prescription d'un traitement et de soins pour de nombreuses maladies chroniques. La prise en charge intègre l'éducation thérapeutique pour apprendre à vivre au long cours avec sa pathologie. C'est le cas pour une maladie comme Parkinson. Comprendre, intégrer, réagir face à des symptômes que l'on n'a pas forcément su interpréter tout de suite, des manifestations variables et diverses. Au regard des chiffres, la maladie de Parkinson est une maladie du grand âge, mais même si elle peut se déclarer dès la cinquantaine, elle peut impliquer des atteintes physiques, fonctionnelles, mentales, maladies complexes. Et si aujourd'hui, elle est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après Alzheimer, elle n'en est pas moins plutôt méconnue du grand public. C'est pour cette raison qu'en cette journée mondiale, l'association France Parkinson souhaite mobiliser sur le regard porté sur cette maladie, sur les patients, limiter les préjugés, favoriser une médecine personnalisée en cohérence avec les origines, les manifestations, l'évolution de l'affection, mieux connaître les cas pour offrir aux patients une réponse pertinente au regard de son état comme de ses attentes. Journée mondiale de la maladie de Parkinson. Pour répondre à nos questions avec nous en studio, professeur David Grably, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur de neurologie à Sorbonne Université, et vous êtes aussi, professeur Grably, chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Également avec nous en studio, Claire Garnier, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre Témoignages sur la route de Parkinson, publié aux éditions Albin Michel, et vous êtes vous-même atteinte de la maladie. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Congo, le docteur Beben Banzouzi, neurologue, ancien chef du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. En fin d'émission, le docteur Catherine Solano, sexologue, répondra aux questions des auditeurs. Questions que vous avez bien sûr pu nous adresser sur la page Facebook de l'émission. Et vos questions, c'est toujours au même numéro, le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Alors on va bien sûr aborder les symptômes, manifestations, origines, prise en charge de cette maladie chronique Parkinson. Mais tout d'abord, ces premières questions que je vous adresse à vous, madame, avant qu'un médecin vous fasse part de ce diagnostic, que vous dise, voilà, madame, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, mais vous êtes atteinte de la maladie de Parkinson. Claire Garnier, qu'est-ce que vous saviez au juste de Parkinson?
À part les tremblements, je ne savais absolument rien.
Et vous aviez quel âge quand on vous a prononcé ce nom, ce mot de Parkinson?
55 ans, quelque chose comme ça, aux alentours de 55 ans.
Vous dites « diagnostic qui fait basculer ma vie comme un coup de tonnerre ». C'est votre ressenti, vous avez un peu plus de 50 ans, la cinquantaine. Qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réaction au-delà du choc quand vous rentrez chez vous? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, bizarrement, je savais que j'avais la maladie de Parkinson, parce que depuis un moment, j'avais très mal au bras, et j'étais tombée, je m'étais fait mal, et c'était vraiment très très lourd. Et j'avais ce mot dans la tête. Donc, quand j'ai vu le docteur, la première fois le docteur, elle m'a dit, je ne crois pas que tu aies la maladie de Parkinson parce que c'est une amie. Et en fait, quelques temps après, je commençais à être très très mal. J'avais l'impression de tomber dans un puits noir. Dans un puits tout noir.
C'était quoi? C'était un ressenti physique?
Un ressenti physique, quelque chose de spirituel? Non,
physique.
C'était physique. J'avais l'impression d'être comme Alice au Pays des Merveilles, qui tombait dans le puits, vous savez.
C'était associé à des douleurs?
Il y avait beaucoup de douleurs dans le bras. Je tenais mon bras sans arrêt.
Vous dites, j'ai d'abord consulté, Claire Garnier, un médecin, c'était une généraliste. Vous êtes ensuite allée voir un spécialiste, un neurologue?
J'ai vu mon médecin traitant, et puis après je suis allée chez un neurologue. Mais entre-temps, comme ça allait de plus en plus mal, j'en ai parlé à une de mes sœurs qui est psychiatre, et qui m'a dit, oh là là, il faut faire quelque chose. Tu vas pas rester comme ça. Et je suis allée voir le médecin du quartier, qui était un neurologue, et qui m'a dit, oui, vous avez la maladie de Parkinson.
Il a fallu combien de temps entre le premier signe et le nom posé sur votre mal?
Entre le premier signe, quelques mois quand même.
Plusieurs mois. Alors aujourd'hui, on se parle, vous êtes face à moi, hein, oui. Vous êtes arrivée sur vos deux jambes,
oui.
Plutôt bien, plutôt, je sais pas, ça ne se voit pas à première vue. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous empêche aujourd'hui de faire la maladie de Parkinson?
Pas grand-chose.
Ouais, parce que depuis le temps a passé, hein, depuis ses 55 ans, oui, ça, ou 56
oui,
ans.
Oui.
Donc aujourd'hui, vous avez au-delà de... Vous avez
72 ans.
72 ans. Donc pour une personne de 72 ans, quand on ne sait pas que vous êtes atteinte, ça ne se voit absolument pas sur votre allure. Donc qu'est-ce que ça vous empêche de faire?
Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Alors, me tourner bien dans mon lit.
Mm-hmm.
Quand j'ai un matelas un peu mou, c'est très très difficile. Mais c'est la seule chose, je crois. Aujourd'hui.
Vous parliez de cette grande douleur au bras, c'est fini?
C'est fini, oui,
c'est
tout
fini
à
complètement.
Fait.
Alors, je me tourne à présent vers vous, hein, vous avez tout bien écouté, professeur David Grably. Du côté de l'explication de la maladie de Parkinson, Claire Garnier nous parle de cette douleur annonciatrice dans le bras, même un peu de blocage. Du côté des symptômes, quand j'ai préparé cette émission, ce qu'on voit, c'est que la liste, elle est interminable.
C'est exactement le cas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute la complexité de la maladie. Et c'est aussi pour ça qu'elle est difficile à appréhender pour les patients, pour les médecins qui la connaissent pas très bien, pour l'entourage des personnes malades. Alors, il y a effectivement les symptômes classiques qui sont les symptômes qui vont toucher la motricité que tout le monde connaît. Souvent, ce qu'on met en avant, c'est le tremblement. Mais je trouve que votre témoignage est intéressant parce que finalement, le tremblement qui est le symptôme le mieux connu et le plus associé à la maladie de Parkinson, c'est pas le plus caractéristique. En réalité, le plus caractéristique, c'est la lenteur, l'appauvrissement progressif de la motricité qui devient moins automatique, qui nécessite finalement d'avoir une focalisation plus importante, d'y penser en permanence. C'est ce qu'on appelle l'akinésie en termes médicaux.
Ça veut dire que pour bouger, il faut réfléchir avant et c'est plus dans l'ordre des choses.
Tout à fait.
Absolument.
Et c'est une chose qu'on a du mal à se représenter, dire ce que ça veut dire, être condamné au mouvement volontaire à vie, penser à chaque geste qu'on doit faire.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, professeur David Grably, que chez Claire Garnier, un médecin ou peut-être même son entourage aurait pu confondre cette douleur dans le bras ou cette moins bonne motricité avec, par exemple, une douleur d'ordre rhumatismal?
Alors, quand la maladie commence par la douleur... À cause de l'autre symptôme dont j'ai pas parlé, qui est la raideur, l'hypertonie en termes médicaux, effectivement, il peut y avoir un parcours de soins qui va d'abord passer par le rhumatologue et parfois va mettre un petit peu de temps avant d'arriver chez le neurologue pour faire le diagnostic de la maladie.
Alors, vous parlez de ces symptômes les plus connus. Alors, je disais donc, la liste est très longue. Cette raideur dans les articulations, on l'a dit. Mais peut y avoir également beaucoup de fatigue et d'autres choses qui ne sont pas forcément d'un ressort articulaire ou de la motricité. Problèmes intestinaux, par exemple, on n'y pense pas, mais ça peut aussi arriver.
Tout à fait. Il y a une liste de symptômes qu'on appelle, nous, symptômes non moteurs, puisqu'ils sont finalement hors de la sphère de la motricité. Et ces symptômes vont toucher des dimensions qui sont très différentes. Le système nerveux végétatif, donc effectivement les troubles du transit, des troubles de la régulation de la pression artérielle, des troubles du sommeil, des troubles psychiques, un manque de motivation, une apathie qui peut ressembler à de la dépression. Donc une liste de symptômes extrêmement large. Je crois qu'il y a dans les articles qui s'intéressent à ce sujet 31 symptômes non moteurs listés de la maladie de Parkinson. Et d'une certaine manière, c'est cela qui gêne beaucoup les patients, plus que les symptômes moteurs, parce que c'est ceux qu'on ne sait pas très bien prendre en charge avec les médicaments de la maladie de Parkinson.
D'autant plus que la maladie intervient, professeur Grably, à un âge où il peut y avoir effectivement d'autres troubles de santé. Et on va dire simplement, cette personne est en train de vieillir.
Oui.
C'est quelque chose que vous avez ressenti, Claire Garnier, mais vous étiez jeune quand même quand la maladie s'est déclarée. La cinquantaine, c'est une forme quand même assez précoce, mais ce sont parfois chez des personnes qui ont 70 ans, voire plus, et là on se dit, effectivement, c'est l'âge qui fait son travail.
Absolument, ou c'est les problèmes rhumatologiques, le problème d'arthrose qui va faire que la motricité se dégrade. C'est toute la difficulté, c'est que finalement, chez les personnes qui avancent en âge, il faut savoir penser à la maladie de Parkinson, alors même que d'autres pathologies pourrait induire en erreur. Et chez les personnes plus jeunes, la difficulté, c'est qu'on s'interdit souvent d'y penser. C'est ce que vous avez effectivement rapporté. Et du coup, il peut y avoir un retard diagnostique parce que l'entourage, les médecins, considèrent que la maladie de Parkinson à 45 ans, 50 ans, c'est pas possible. Alors que ça l'est en réalité.
Professeur Grably, quelle partie du cerveau est affectée quand se déclare la maladie de Parkinson?
Alors, La partie du cerveau qui est associée, dont la lésion, l'anomalie est associée à l'apparition des symptômes moteurs, le tremblement, la raideur et la lenteur, c'est une partie du cerveau qui est située dans la profondeur des hémisphères cérébraux qu'on appelle la substance noire, parce qu'elle apparaît noire lorsqu'on la regarde macroscopiquement. Et c'est la lésion de cette partie qui explique les symptômes moteurs. Quand la maladie progresse, les lésions vont s'étendre et c'est ce qui explique l'enrichissement progressif des symptômes au fur et à mesure de la progression de la maladie.
Alors, quelque chose d'essentiel qu'on comprend quand on lit votre livre, Claire Garnier, c'est que d'emblée, vous refusez de vous laisser envahir justement par la maladie et les symptômes. On dirait que vous faites véritablement barrage de votre corps et vous cherchez toutes ces méthodes de mieux-être. Vous allez emprunter de multiples chemins et d'abord, vous allez essayer de vous connaître vous-même. Il faut dire qu'aussi que ça correspond à votre parcours de vie puisque vous êtes devenu thérapeute et vous êtes allé chercher chez vous-même ce qui n'allait pas pour comprendre aussi ce qui n'allait pas dans votre fonctionnement organique. Et comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé, le déclic, ça a été une de mes filles qui dit à son père, papa, tu sais, tu es inquiet. Le père ne répond pas. Oui, mais papa, tu es inquiet, ne t'inquiète pas, parce qu'on habite une maison avec un escalier pour arriver au PS à vivre. Et donc, ma fille dit, ben, ne t'inquiète pas, on va mettre un monte-escalier. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Je disparais, j'ai deux solutions, ou je disparais, ou je me bouge. Parce que je ne veux pas être une charge. Je ne veux pas être hissée dans un monde de charge. Donc là, ça a été le déclic. Et je me suis dit, là, il faut que tu trouves pourquoi, qu'est-ce que te raconte cette maladie. Et il faut avancer comme ça.
Alors justement, quel lien est-ce que vous avez établi entre vos traumatismes d'enfance? Parce que vous n'en faites pas mystère, vous avez été victime de maltraitance prolongée et grave au sein même de votre famille. Vous aviez perdu votre maman à l'âge de 1 an. Justement, entre ce lien, entre passé douloureux et arrivée de la maladie, quel lien avez-vous fait?
Le premier lien que j'ai fait, c'est que je devais rester sans bouger contre un mur. Et si je bougeais, j'étais battue.
C'était votre belle-mère qui vous infligeait ces sévices.
Oui, absolument. Et donc, dans la maladie de Parkinson, c'est le mouvement s'arrête. Donc, j'ai fait le lien parce que mon mari est tombé malade, a été opéré, a eu un triple pontage. Et là, j'ai eu très peur de le perdre. Et si je perdais mon mari, je perdais en même temps la sécurité. Enfin, ça, c'était ce qui était inscrit dans ma cervelle. Et du coup, ça pouvait, les sévices pouvaient recommencer. Donc, j'ai fait ce lien que il fallait surtout faire attention à pas bouger. D'autant plus que, à l'hôpital, quand mon mari a passé ses examens, le jour où il a passé ses examens, on lui a dit, surtout, ça va pas, on va vous opérer mardi, et d'ici mardi, il ne faut absolument pas bouger. Donc j'ai vraiment assimilé que bouger était
dangereux.
Très dangereux.
Avec ce sentiment permanent d'insécurité contre lequel vous avez lutté. Alors justement, refus de la passivité tout en examinant ce qui s'est passé dans votre vie. Et puis curiosité incroyable en matière de soins. On a envie de dire, vous avez tout essayé ou presque. Non, vous n'avez pas tout essayé, mais quand même pas mal de choses. Ce serait trop long de citer toute la liste des thérapies dans lesquelles vous êtes lancé. Médecine traditionnelle chinoise, j'en fais quand même quelques-unes. Acupuncture, aquagym, méditation, ayurveda, kinésithérapie bien sûr. Mais je retiendrai surtout la danse. Oui. Racontez-nous cette rencontre avec la danse. Et quelle danse ?
Alors, la danse, la première rencontre que j'ai faite avec la danse, je faisais un stage et tous les matins, on devait danser pendant 1h30. Et moi, tous les matins, je tombais. Donc, je me mettais contre un mur, je regardais mes petites copines danser et j'attendais que ça se passe. Jusqu'au jour où il y a eu un déclic, parce que j'ai eu une remontée d'une vieille histoire qui est ressortie. Et le lendemain, j'ai pu danser. Et donc, je me suis dit, je vais danser maintenant, parce que ça, c'est très important. Donc, j'ai été m'inscrire dans un club où on faisait de la danse en ligne, vous savez, de la danse folklorique. Et alors là, ça a été très compliqué. Parce que faire de la danse folklorique quand on a Parkinson, c'est très compliqué, parce qu'il faut penser le pas qu'on est en train de faire. Et comme normalement, on anticipe sur le pas d'après, quand on n'a pas Parkinson, moi, il fallait que je pense le pas et que j'anticipe l'autre. C'était hyper compliqué. Ça se terminait toujours avec des larmes.
Et votre neurologue vous a engagé justement sur cette voie de l'activité physique et en même temps de toutes ces pratiques parallèles ?
Elle m'a suivi.
Elle vous a suivi.
Elle m'a suivi.
Et elle en pensait quoi ?
Elle a trouvé que c'était super. Vraiment. D'ailleurs, c'est elle qui fait la préface.
Bah oui, parce qu'elle ne vous a pas lâché, non, elle n'a pas lâché. Même si elle a pris sa retraite, hein, c'est bien ça.
Non, non,
elle continue.
Pas... Non.
Elle continue d'exercer.
Non, non, je la vois plus.
Vous ne la voyez plus.
Non, j'ai trouvé une autre neurologue.
Professeur David Grably, qu'est-ce que vous en pensez justement, vous, de cet engagement dans des thérapies parallèles? On va parler bien sûr tout à l'heure du traitement, mais pour vous, est-ce que c'est quelque chose d'absolument essentiel?
J'aime pas trop du coup le terme de thérapie parallèle.
Alors qu'est-ce qu'on choisit? Il y a des soins de support, il y a des pratiques
soins de support,
associées,
thérapie non médicamenteuse, mm-hmm. thérapie holistique. Enfin, je pense qu'on peut.
Le problème de parallèle, c'est qu'il y a un peu tout et n'importe quoi qui va dedans.
Oui,
exactement.
Ça,
et encore une fois, votre témoignage est absolument passionnant. Toutes ces pratiques qu'on a considérées comme pendant longtemps comme étant des pratiques parallèles, un peu exotiques, en réalité, elles s'intègrent de plus en plus dans la prise en charge habituelle, classique, scientifique. De la maladie de Parkinson. Vous parliez de la danse. Oui. La danse a été une pratique qui a été bien étudiée et dont la pratique régulière est associée à une amélioration de paramètres réels, durs de la maladie de Parkinson, des paramètres moteurs tels que l'équilibre par exemple. Oui. Et c'est à tel point vrai que dans un hôpital universitaire comme la Pitié-Salpêtrière, on a développé un programme de danse-thérapie. On a développé un programme de tai chi qui est une autre pratique dont l'étude a été très poussée dans la maladie de Parkinson avec de réels bénéfices. On a développé aussi un programme de méditation dans le cadre de nos soins de support, parce qu'on considère que c'est essentiel pour le bien-être des patients. C'est évidemment un axe majeur dans l'accompagnement de la maladie, mais c'est aussi important au regard d'effets plus solides sur les symptômes moteurs et non moteurs de la pathologie.
Professeur David Grably, est-ce que la maladie avance avec des hauts et des bas, des vagues? Est-ce qu'il y a, par exemple, si on perd certaines capacités, certaines compétences, la possibilité de les retrouver?
Alors, c'est une question qui est assez difficile. Je dirais que si on prend une évolution moyenne de la maladie de Parkinson, elle va se faire vers l'accentuation des symptômes déjà présents et l'apparition de nouveaux symptômes. Pour autant, les symptômes de la maladie de Parkinson ont comme caractéristique d'être extrêmement fluctuants d'un moment à l'autre en fonction des événements de vie et d'être notamment extrêmement influencés par le contexte, par l'état émotionnel. Donc, dans une situation, par exemple, de bien-être associé à un événement heureux, les symptômes peuvent s'évanouir et puis vont éventuellement réapparaître quelques semaines ou quelques mois après. À l'inverse, dans une situation triste, dans une situation de deuil par exemple, il peut y avoir des périodes qui vont être plus difficiles. Donc il y a, je dirais, cette double cinétique, une tendance moyenne à la progression de la maladie, mais derrière tout ça, effectivement, des fluctuations et des vagues qui vont moduler la sévérité, l'intensité et le retentissement des symptômes.
Sur le plan du traitement, Claire Gagné, qu'est-ce que vous prenez aujourd'hui comme médicament?
De la dopamine et des agonistes de dopamine.
Alors, professeur David Grably, expliquez-nous, de quoi s'agit-il?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait faire en termes de traitement médicamenteux de la maladie de Parkinson, c'est de substituer le neurotransmetteur, la substance chimique qui manque dans le cerveau parce qu'elle n'est plus produite en quantité suffisante. Les neurones qui meurent dans la maladie de Parkinson sont principalement ceux qui fabriquent de la dopamine. Et donc, on substitue le manque de dopamine avec plusieurs classes thérapeutiques. Il y a effectivement la forme naturelle de ce médicament qui est la levodopa, qui va permettre au cerveau de fabriquer plus de dopamine. Il y a également des molécules qui n'ont pas la structure chimique de la dopamine, mais qui vont mimer son effet. Ce sont les agonistes dopaminergiques dont vous parliez. Et puis, il y a également d'autres stratégies de traitement qui vont chercher à renforcer l'action de la dopamine que le cerveau fabrique encore. Ce sont les trois grandes classes thérapeutiques dans la maladie de Parkinson.
Et ces médicaments ont des effets secondaires? Tous les patients peuvent les prendre ou certains patients sont exclus de ces classes de médicaments?
Dans la maladie de Parkinson, dans sa forme classique, le traitement avec ces classes thérapeutiques-là est la règle. En revanche, les effets indésirables qui sont déterminés par des facteurs individuels peuvent être des facteurs limitants à l'utilisation de ces différentes classes thérapeutiques. Par exemple, on peut prendre un effet indésirable très classique des agonistes dopaminergiques. C'est chez certaines personnes, notamment jeunes, le risque de développer des phénomènes d'addiction comportementale, des phénomènes de comportement répétitif tels que le jeu pathologique, les dépenses excessives, qui vont conduire à diminuer la dose, voire à arrêter ces traitements, compte tenu de la sévérité de ces manifestations.
Alors justement, des compulsions, on a parfois du mal à faire le lien entre une maladie neurologique et des choses qui peuvent s'associer dans l'esprit du grand public à des troubles mentaux parfois. Alors comment ça se passe justement, cette explication pour dire aux gens, ben voilà, ça fait partie de la maladie, c'est comme ça, mais il faut pas plus stigmatiser tel ou tel symptôme que l'autre?
C'est vrai qu'on a souvent tendance à rattacher la maladie de Parkinson à l'idée de la motricité, mais d'une certaine manière, les processus mentaux, la régulation du comportement, les processus autour de la pensée et de la cognition sont aussi des fonctions cérébrales, et ces fonctions cérébrales peuvent être altérées par les lésions liées à la maladie de Parkinson. Donc effectivement, les aspects psychiques, les troubles cognitifs font dans une certaine mesure, on le sait moins, hein, on a souvent du mal à le dire, partie de la maladie de Parkinson. Et de la même manière que la maladie peut entraîner ce type de symptômes, et les médicaments traitent vont améliorer la motricité, mais peuvent aussi induire des effets indésirables qui vont concerner la sphère psychique.
Alors vous restez avec nous, on va tout de suite donner la parole à un auditeur de Priorité Santé.
RFI.
Auditeur en ligne du Togo, de Lomé, c'est vous. Parfait, bonjour.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, parfait, le professeur David Grably est à l'écoute.
Je souffre de la maladie de Parkinson depuis plus de 10 ans maintenant. Mm-hmm. Et le médecin m'a mis sous Modupa et Parkinson. Bon, et entre-temps, j'ai écouté sur votre radio que bon, on disait que bon, les cellules ou les neurones se dégénèrent. Mm-hmm. Et que si on faisait un peu de sport, ça va permettre que votre état s'améliore.
Et vous, parfait, aujourd'hui, vous en faites du sport? Vous avez une activité physique de quel type?
Non, maintenant que la maladie s'est aggravée, je n'arrive plus à faire du sport.
Mais est-ce que vous marchez pendant la journée? Est-ce que vous vous déplacez quand même pour aller voir des amis, faire des courses, aller au marché?
Oui, je me déplace quand même. Je me déplace de temps en temps. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que comme j'ai appris ça, je me suis dit, on m'a dit que bon, quand vous faites un peu de sport, ça vous permet d'envoyer beaucoup d'oxygène au niveau du cerveau. Et ce qui fait que j'ai fait un exercice de yoga où vous allez vous coucher et envoyer les deux jambes qui seront parallèles, parallèles au mur. Mm-hmm. Bon. Donc, quand j'ai fait cet exercice-là, j'ai vu qu'après, j'ai m'aimé, c'est comme si j'ai pris et une casserole sur le feu. Il y a beaucoup de douleurs dans mes mains, sur mes doigts, je ne peux rien tenir. Et que même s'il y a quelque chose dans ma poche, je ne peux pas le prendre. Donc j'ai dit que bon, ce que le médecin me déconseillait, c'est-à-dire que bon, ça a commencé par accélérer la maladie. Et là, il y a des raideurs même au niveau de mes doigts.
Parfait. Ce qu'on va voir avec le professeur David Grably, c'est justement peut-être lui demander quelques conseils en termes d'exercice ou de savoir à qui demander quels sont les exercices les plus appropriés. Ce que vous nous avez décrit, a priori, c'est un poirier. Alors peut-être que c'est un exercice un petit peu trop radical qu'on fait plutôt dans une salle de gym quand on est vraiment en pleine forme, parce que le poirier à 62 ans quand on a la maladie de Parkinson, c'est peut-être pas le premier exercice recommandé. Je pense pas que vous allez me démentir, professeur David Grably.
Non, je suis assez d'accord avec vous. Je dirais que bien évidemment, l'activité physique, c'est essentiel dans le cadre de la maladie de Parkinson. Il y a des travaux très sérieux qui montrent que le fait d'avoir pratiqué une activité physique permet de réduire le risque de développer la maladie, et des travaux tout aussi sérieux qui disent que quand elle s'est déclarée, le fait d'avoir une activité physique soutenue permet de freiner la progression des symptômes moteurs. Alors après, sur le type d'activité, difficile d'avoir des recommandations absolues. Assez clairement, ce qui est plutôt favorable, c'est de l'activité physique aérobie, la marche à d'un rythme soutenu, la course, le vélo, l'aquagym, on en parlait tout à l'heure. Je suis pas sûr effectivement que le poirier soit tout à fait dans cette optique-là. Il faut pas oublier que la maladie de Parkinson a quand même des effets sur la motricité et que probablement pour chez des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir une activité physique et qui connaissent pas très bien leur fonctionnement corporel, il vaut mieux débuter cette activité sous supervision dans des clubs de sport, éventuellement avec des coachs d'activité physique adaptée. Le problème, c'est l'accès à ces ressources-là.
Absolument, l'accès en tout cas parfait. Pas de choses extrêmes, pas de choses qui vous déséquilibrent, pas de choses où vous avez un risque de traumatisme. Aller vers des activités plutôt douces, hein, on peut dire le plus simplement du monde, comme on parle d'activité physique, c'est la marche tout simplement. Surtout ne pas s'arrêter de marcher, ça c'est essentiel. Ne pas s'arrêter par peur ou par danger ou par non, il faut continuer à marcher.
Il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement la peur, la difficulté réelle à la marche liée aux symptômes moteurs de la maladie. Une dimension dont on n'a pas parlé qui est l'apathie, le manque de motivation, qui peut faire que la maladie va se piéger les patients qui vont avoir tendance à réduire progressivement leur activité. Il faut essayer de lutter contre cette tendance-là. Le fait de continuer l'activité physique, de continuer à marcher et de faire probablement plus que ce qu'on faisait avant la maladie, c'est certainement une manière d'avancer avec elle.
En tout cas, on vous sentait très motivé, parfait. Vous êtes décidé à marcher, je sais pas, au moins une bonne vingtaine de minutes tous les jours, une demi-heure, aller accompagner la famille pour faire les courses, je ne sais pas.
Oui, je voudrais ajouter. C'est-à-dire que j'ai aussi, à cause de la maladie,
oui,
quand je voudrais me déplacer, je ne sais pas pourquoi je tombe de.
Alors la ligne est mauvaise, mais j'entends, ce que je comprends, c'est que vous perdez l'équilibre, vous avez des problèmes d'équilibre, professeur Grably, c'est quelque chose d'associé?
Ça fait partie des symptômes qu'on peut voir dans l'évolution de la maladie de Parkinson. C'est rarement un symptôme précoce, c'est un symptôme qu'on peut voir, pas de manière obligatoire, plutôt en moyenne après 10 ans ou 15 ans d'évolution.
C'est ce que disait Parfait, il est malade depuis déjà plus de 10 ans.
Tout à fait, et malheureusement c'est un symptôme qui est peu amélioré par les traitements médicamenteux, notamment ceux à base de dopamine.
Voilà, parfait. On vous souhaite une bonne journée à Lomé. On poursuit cet échange. Un élément important, on n'en a pas encore parlé avec vous, si ce n'est très brièvement, Claire Garnier, la réaction de votre entourage. Vous avez dit, vous avez des enfants, vous avez trois filles. Comment elles ont réagi quand elles ont appris la maladie? Et puis même chose pour votre époux, comment a-t-il réagi?
C'était très difficile pour eux. Mais pour mes filles, il y en a une qui m'a accompagnée chez la neurologue et qui a eu le diagnostic en même temps que moi.
Oui.
Donc elle a dit de toute façon, il faut qu'on organise quelque chose pour maman. Donc elle s'est mise tout de suite dans l'organisation. Les autres ont été un petit peu scotchées, mais de toute façon, dès le départ, moi j'ai dit je ne veux pas qu'on m'aide. Je vous demanderai de l'aide. Si j'ai besoin d'aide, je vous le demanderai. Parce que je voulais absolument pas perdre mon autonomie. Et donc, chaque fois qu'on essayait de me remettre ma veste, de m'aider à mettre ma veste, je rouspétais. Parce que ça, c'était impossible. Alors, mon mari, il a pris avec inquiétude. Avec inquiétude. Surtout qu'il venait d'être malade.
Mais donc, voilà. Il y avait ces craintes. Professeur David Grably, justement, dans l'annonce du diagnostic, est-ce que certaines personnes, on a bien compris, c'est pas du tout le cas de Claire Garnier qui est avec nous aujourd'hui, s'effondrent en imaginant le pire, une perte de l'autonomie très rapide? Faut dire que le nom de la maladie, quand on parle de neurodégénératif, ça fait peur. On imagine tout de suite cet empêchement au quotidien. Les gens ont peur de Parkinson quand ils l'apprennent?
La réponse est clairement oui. La première réaction et la première projection qu'on a dans les situations d'annonce du diagnostic de la maladie de Parkinson, c'est la perspective de la perte d'autonomie et du fauteuil roulant, avec un délai qui est un délai très court. Et nous, tout le travail qu'on doit faire, et en ça, je pense que l'exemple de Claire Garnier est absolument admirable, c'est de redonner la perspective temporelle.
Il faut informer, il faut quand même rassurer les gens.
C'est pas qu'il faut, c'est que la réalité de la maladie, c'est que elle ne va pas altérer l'autonomie pour une durée qui est très longue et dont on a du mal à déterminer à l'avance la durée. Et donc le risque finalement au moment de l'annonce, c'est que les conséquences psychiques, l'effondrement, va être le facteur d'altération de la qualité de vie, au-delà même des symptômes de la maladie. Et donc tout l'enjeu de la séquence d'annonce, c'est d'éviter que ce phénomène d'effondrement se produise. Alors bien évidemment, l'annonce n'est jamais un moment agréable, et je pense qu'il n'y a pas de manière de le transformer en quelque chose d'agréable, mais il faut permettre aux mécanismes de défense face à cette annonce de se mettre en place le plus efficacement possible pour permettre de retrouver de la perspective, de retrouver la possibilité de faire des projets de vie avec la maladie.
Est-ce que vous diriez qu'il y a encore des fausses croyances ou des idées reçues sur cette maladie, professeur David Grably? Est-ce que vous en avez identifié?
Alors oui, un certain nombre. Il y a d'abord la croyance très classique sur l'idée que sans tremblement, pas de maladie de Parkinson. Donc ça conduit au retard diagnostique. Ouais, diagnostique. C'est effectivement la croyance sur la rapidité d'évolution et sur la perte d'autonomie associée de manière obligatoire et rapide au diagnostic. C'est pas la réalité. Alors, encore une fois, faut pas non plus être trop simpliste. Il y a bien des formes qui vont progresser, qui vont évoluer rapidement. Mais l'histoire moyenne de la maladie de Parkinson, c'est avec le traitement et avec les mesures dont on a parlé d'accompagnement, le maintien d'une autonomie pendant des années et des années, et pendant un délai qu'on n'est pas capable de chiffrer au moment du diagnostic.
Ce qui est d'ailleurs valable pour beaucoup de maladies, et ce qui est un petit peu confus avec Internet, c'est que les gens vont voir à quoi ça ressemble en général, quels sont les tableaux génériques, et en fait, on oublie l'individu.
Et vont aussi capter les informations, qui sont les informations peut-être les plus angoissantes, parce qu'au moment de l'annonce, qu'on va regarder, c'est le pire. Ça me semble assez logique. Donc tout le travail des médecins, du neurologue et des gens qui accompagnent les personnes malades, c'est justement de redonner cette perspective. Et peut-être une troisième idée reçue, si je peux me permettre.
Allez-y, bien sûr.
La troisième idée reçue, c'est sur le traitement. Il y a souvent l'idée que les médicaments de la maladie de Parkinson, c'est pire que le mal. C'est souvent quelque chose qu'on entend, et il y a une peur de prendre les médicaments. Il y a aussi l'idée que si on les prend tôt dans l'évolution, on va griller des cartouches. Et il y a une tendance, du coup, à économiser le traitement. C'est plutôt l'inverse. Il faut traiter au moment où il y a besoin. Et on sait, et on a 40 ans de recul à ce sujet-là, que vivre avec la maladie de Parkinson avec les traitements, c'est mieux que vivre avec la maladie de Parkinson sans les traitements médicamenteux, même si ces traitements ont des effets indésirables qu'il ne faut pas négliger.
Alors vous restez avec nous, on va tout de suite partir pour le Congo.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Beben Banzouzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, ancien chef du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Est-ce que vous disposez, docteur Banzouzi, d'indications sur la fréquence de la maladie de Parkinson au Congo-Brazza?
Malheureusement, non. Malheureusement, comme on n'a pas pu faire, on ne peut pas faire des études en population générale, parce que le coût étant trop élevé, on n'a pas de prévalence en population générale. Pour ce qui est de la prévalence hospitalière aussi, comme la maladie n'est pas connue et n'est pas identifiée par la population comme étant une maladie à part entière, puisqu'elle n'est pas dénommée aussi dans nos langues, on n'a pas de mots pour cette maladie. Donc les gens, ils ne viennent pas forcément à l'hôpital.
Ça veut dire que la plupart des gens pensent que finalement, avoir Parkinson, hein, je mets des guillemets bien sûr, c'est un petit peu devenir vieux.
Oui, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Devenir vieux, bon, pour les plus jeunes, c'est comme si on leur avait jeté un sort. Hein. Il y a plutôt une explication mystique. Mm-hmm. Mais moi, je pense que on n'en voit pas beaucoup dans le système moderne de santé, parce que les gens, peut-être, qui vont ailleurs, c'est-à-dire que dans les églises de réveil où on promet des tas de choses, puisqu'il y a une connotation un peu mystique à la maladie, hein, pour les patients. Donc ils vont dans ces centres-là où ils peuvent avoir une explication plausible. C'est peut-être pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup.
Et aussi une forme de soutien malgré tout. Des patients donc, qui échappent au circuit hospitalier, docteur Banzouzi, pourtant bien sûr, certains viennent en consultation. Dans ces cas-là, quel type de prise en charge proposez-vous?
C'est vrai que on a des patients qui viennent en consultation. La plupart du temps, ceux qu'on voit précocement nous sont adressés par les rhumatologues. Parce que les patients, c'est à cause des douleurs, hein, et mm-hmm. de la limitation de la mobilité, ils voient un peu plus les rhumatologues. Mais sinon, les autres, on les voit tardivement. Et quand on les voit, ce qu'on a sur place, c'est la lévodopa. Hein. Le Modopar, on en a. Les anticholinergiques aussi, on en a. Mais bon, la plupart des médicaments, surtout la levodopa, le Modopar, c'est tellement cher.
Comme sur une maladie chronique, il faut le prendre absolument en continu. Et tout ça, ce n'est pas compatible avec la situation financière des patients, puisqu'il n'y a pas de prise en charge au Congo-Brazzaville, c'est ça?
Il n'y a aucune prise en charge. Et les consultations, même que ce soit à l'hôpital ou dans le privé, c'est cher. Surtout que c'est une maladie chronique, évidemment. C'est un peu cher.
Alors, on l'a compris, tout reste à faire ou presque en matière de prise en charge de la maladie de Parkinson dans votre pays. Est-ce que vous avez justement, docteur Beben Banzouzi, un message particulier à faire passer en ce qui concerne la sensibilisation?
C'est ça un peu le problème. On en a fait, mais peut-être qu'il faut le faire maintenant là où il y a la population. Juste pour donner l'information que c'est une vraie maladie, comme on l'a fait dans le passé pour les démences, on l'a fait dans le passé pour l'épilepsie. Et maintenant, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de patients de ces maladies où on a sensibilisé les malades. Et c'est vrai, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais bon, peut-être qu'il faut aller dans la masse.
Ouais. Beaucoup de travail devant vous. Merci en tout cas pour ce témoignage, docteur Beben Banzouzi. Je rappelle que vous êtes neurologue à Brazzaville, au Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et on se retrouve pour la dernière partie de cet échange, Journée mondiale de la maladie de Parkinson, toujours en votre compagnie, professeur David Grably. Je disais tout à l'heure en présentation, vous êtes aussi chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. En termes de recherche, justement, est-ce qu'on peut citer des pistes actuelles pour améliorer cette prise en charge des personnes concernées?
Alors, il y en a beaucoup. Peut-être pour essayer de hiérarchiser et de répondre à ce qui est finalement l'enjeu majeur de la recherche sur la maladie de Parkinson, c'est finalement comment freiner son évolution le plus possible. Et je dirais que là, il y a des pistes très sérieuses qui sont étudiées. Il y a d'abord l'idée que, ça c'est quelque chose dont on a entendu parler ces derniers temps, que ce qui va provoquer la mort des neurones, des cellules du système nerveux dans la maladie de Parkinson, c'est l'accumulation d'une protéine, d'une substance anormale, dont le nom scientifique est la synucléine. Et il y a toute une voie de recherche actuellement qui cherche à provoquer une immunisation contre la synucléine, de manière à permettre au cerveau de s'en débarrasser plus efficacement et du coup de limiter la propagation de la maladie, soit avec des systèmes de perfusion d'anticorps qui vont neutraliser cette alpha-synucléine, ou alors en essayant de développer des stratégies vaccinales contre l'alpha-synucléine. Ça, c'est des essais thérapeutiques qui sont en cours, dont on espère avoir les résultats dans les 3 ans, 4 ans qui viennent.
Alors, on a parlé des médicaments, des thérapies complémentaires, là brièvement de la recherche, et la chirurgie, c'est pour quel cas, dans quel cas, est-ce que c'est préconisé ou prescrit?
Alors, la technique de référence aujourd'hui, quand on pense chirurgie de la maladie de Parkinson, c'est ce qu'on appelle la neurostimulation, stimulation cérébrale profonde. Très brièvement, c'est une prise en charge qui va consister à implanter des électrodes, finalement des conducteurs de courant dans des structures profondes du cerveau, de connecter ces électrodes avec un générateur de courant, d'impulsion, qui utilise la même technologie que les pacemakers cardiaques. Donc c'est un système qui est implanté chirurgicalement. Et cette technique permet, indépendamment de la prise médicamenteuse, d'améliorer les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson et d'améliorer finalement les mêmes symptômes que ceux qui sont améliorés par les médicaments.
C'est pour qui?
Alors, toute la difficulté, c'est que les gens qui prennent les traitements de la maladie de Parkinson savent bien qu'au cours de l'évolution, la réponse au traitement va se modifier. En début de maladie, on peut, avec une prise par jour d'un médicament, avoir un état moteur de bonne qualité. Au fur et à mesure du temps, il faut rajouter des prises de médicaments et la durée d'action des prises se réduire. Et parfois, malgré le fait qu'on a pris le traitement, il va y avoir des périodes de la journée où les symptômes vont réapparaître et vont devenir gênants. C'est ce qu'on appelle, nous, les fluctuations. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est que sous l'effet des médicaments, alors que la motricité est de bonne qualité, que le tremblement disparaît, que la lenteur disparaît, vont apparaître ce qu'on appelle des mouvements involontaires, des dyskinésies. Et donc, la vie d'un patient parkinsonien après 7 ans, 10 ans d'évolution, ça peut être l'alternance entre des périodes de mauvaise motricité, de ralentissement, de difficulté de marche et des périodes de bonne motricité avec les mouvements involontaires. La chirurgie intervient exactement à ce stade-là. Elle permet d'améliorer les symptômes moteurs indépendamment des médicaments. Elle agit en continu, donc elle va limiter ces fluctuations et elle permet de réduire la dose de médicaments, donc de limiter les mouvements involontaires que les médicaments produisent. Et ça fait ça, globalement, un profil particulier de patients atteints de la maladie de Parkinson. On considère que c'est 10% à peu près, parce que dans certaines situations, les personnes trop âgées, les personnes avec des troubles de l'équilibre et de la marche, des chutes fréquentes, les personnes avec des troubles cognitifs ou des troubles psychiatriques sont exclues de cette chirurgie parce qu'on sait que chez ces personnes-là, le résultat n'est pas bon.
Il va y avoir des contre-indications. Claire Garnier sera un petit peu le mot de la fin. Votre livre raconte cet itinéraire personnel. Et puis, c'est aussi un message d'encouragement pour les personnes qui sont concernées. Quand on lit ça, on dit, bah, finalement, certains pourraient croire tout va s'accélérer, tout va empirer. Message d'encouragement, je vous cite, chaque personne est différente, mais surtout ne baissez pas les bras. C'est vraiment le message que vous faites passer dans ce livre.
Oui, c'est ça. C'est...
Et vous rencontrez d'autres patients, vous leur dites également mots ?
Oui, je leur dis comme ça. Je leur dis, on est plus grand que notre maladie. On n'est pas la maladie. Et on a tous une part de nous qui est à l'abri, à l'intérieur de nous et qui n'est pas malade. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et c'est là, dans cette part-là, qu'il y a toutes les ressources pour s'en sortir.
D'ailleurs,
je dis pas pour guérir, je dis pour s'en sortir, pour maîtriser,
pour continuer à avancer.
Continuer d'avancer tranquillement.
Cette journée mondiale, l'association France Parkinson insiste sur les besoins individuels des malades. On l'a bien compris pendant toute cette émission. Chaque personne différente, des traitements différents, des solutions différentes. On parle de médecine personnalisée. Ça veut dire quoi précisément, médecine personnalisée pour Parkinson ? Il nous reste très très peu de temps.
Je vais essayer d'être très synthétique. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a la connaissance et l'identification des besoins et des souhaits de chaque personne et la fabrication finalement d'un plan de soins qui va utiliser cette information-là. Donc de ne pas regarder la maladie à travers les lunettes du médecin, mais à travers la perception que nous en renvoient les patients. Et la deuxième stratégie, c'est de pouvoir catégoriser sur des marqueurs biologiques les différentes formes de maladie pour pouvoir aller vers des traitements qui seront médicamenteux réellement individualisés.
Mot de la fin, vous écrivez Claire Garnier, grâce à la maladie, vous avez un sentiment qui vous habite aujourd'hui, vous vous sentez de plus en plus vivante et tranquille. C'est ce qu'on a bien ressenti, vivante et tranquille. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci Claire Garnier. Je rappelle le titre de votre ouvrage autobiographique, témoignage aux éditions Albin Michel, sur la route de Parkinson. Et merci à vous, professeur David Grably, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur de neurologie à Sorbonne Université. Avec nous à présent le docteur Catherine Solano, sexologue. Catherine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors on va répondre tout de suite à la question d'un auditeur de Priorité Santé. Il est en ligne de Conakry, en Guinée. C'est Abou. Bonjour Abou.
Et bonjour madame.
On écoute votre question.
Ok madame, j'ai une partenaire. Nous devrions bientôt nous marier, mais elle est vierge, donc elle a peur des premières relations sexuelles. Je ne sais pas comment la faire comprendre.
Alors, première question, docteur Solano, sur ce tout premier rapport sexuel. C'est souvent, d'ailleurs, une question qui nous est posée.
Donc, elle a peur et comment faire pour la rassurer? Eh bien, je pense que d'abord, il faut lui dire à votre amie, c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur avant la première fois. C'est hyper important de dire ça parce qu'on a tendance à dire « mais non, faut pas avoir peur ». Ben, c'est un peu comme un enfant qui tombe et qui dit « j'ai mal », on dit « mais non, t'as pas mal, c'est rien », il va pleurer encore plus fort. Donc, il faut qu'elle se sente comprise. Ce que vous lui dites, ben, c'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai eu peur avant ma première fois, éventuellement, voilà. La deuxième chose à faire, c'est lui dire « mais de quoi as-tu peur ?» Parce qu'elle peut avoir peur d'avoir mal. Et si elle vous dit « j'ai peur d'avoir mal », ben vous pouvez la rassurer, lui dire « c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont mal la première fois, on va pas mentir non plus, mais c'est pas non plus atroce. L'hymen, il est fait pour se déchirer, la nature l'a prévu pour se déchirer, c'est pas une opération, heureusement, la première fois. » Et donc, vous pouvez lui dire aussi « mais moi, je comprends que tu as peur d'avoir mal, je te promets, je vais être très doux. Si tu as mal, tu pourras dire stop. » Et donc, elle sera déjà en confiance, elle aura moins peur d'avoir mal. Elle peut avoir peur de ne pas savoir comment s'y prendre. Ben, elle se dit, moi je suis totalement inexpérimentée, pardon, il va être déçu, je vais être nulle. Et donc, Si elle vous dit « j'ai peur de pas être à la hauteur », vous lui dites « écoute, tu es vierge, c'est bien normal que quand on débute, on s'attend pas à être avec une femme expérimentée sexuellement. Donc on va découvrir la sexualité ensemble et vous lui dites « c'est quelque chose de super de découvrir ça ensemble, on va progresser ensemble, donc ne t'inquiète pas ». Si elle a peur de tomber enceinte, il y a des femmes qui ont peur de tomber enceinte, dites-lui « on va s'occuper de la contraception ensemble ». Et il y a aussi des femmes, par exemple, qui ont peur de ne pas être suffisamment belle. Elles se disent « oh là là, j'ai une cicatrice ici, j'ai un peu de cellulite, je sais pas, ou un peu trop de ventre, il va pas me trouver belle, il va être déçu ». Et donc, peut-être qu'elle n'osera pas vous le dire, ça, cette peur-là. Mais surtout, il faut la rassurer, lui dire qu'elle est belle, et lui dire « de toute façon, on a tous nos petits défauts, moi aussi, personne n'est parfait, ça n'empêche pas de se plaire, de faire l'amour et de se désirer ». Et peut-être qu'elle aura d'autres peurs encore que ça, mais vous voyez, quand on a une peur, il faut la décortiquer et savoir ce que c'est exactement.
Voilà à bout pour cette réponse du docteur Catherine Solano. Est-ce que vous aviez eu une autre question à poser à bout?
Oui, j'ai une autre question. Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte sans pénétration?
Docteur Solano.
Alors, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ça arrive quand il y a une éjaculation, donc des spermatozoïdes qui se trouvent au niveau de la vulve, donc à l'entrée du vagin. Parce que une femme, si elle a du désir et une excitation, il y a une lubrification. Et la lubrification, c'est fait pour faire remonter le plus possible de spermatozoïdes vers l'utérus. Donc, ça arrive de temps en temps qu'une éjaculation au niveau de la vulve puisse provoquer une grossesse. Bon, c'est quand même assez rare parce que le chemin est beaucoup plus long. Et donc, quand on a pris ce risque, il faut agir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la pilule du lendemain, le plus vite possible. Ça diminue au moins en moyenne de 80% le risque de grossesse, encore plus de 90% si on la prend très vite après le rapport à risque ou la pratique à risque ici, parce que c'est pas un rapport complet. Donc c'est disponible en pharmacie, sans ordonnance en France, et c'est disponible partout. Ensuite, il faut faire un test de grossesse 3 semaines après. En général, il est négatif parce que c'est quand même très rare une grossesse sans pénétration. Mais pour être rassuré, il faut faire un test de grossesse, comme ça on sait où on en est. Et puis, encore une dernière chose à faire, c'est peut-être qu'il faut penser à une contraception. Parce que si on a des pratiques comme ça, c'est qu'on n'est pas loin d'avoir un rapport sexuel ou qu'on va recommencer. Et ça serait bête de prendre des risques et des risques et des risques et de finir par avoir une grossesse non désirée. Vous avez une réponse qui vous convient?
Oui, c'est le point, ça me convient. Merci.
Eh bien, on vous souhaite une excellente journée à Conakry, en Guinée, à Bou. Et puis, on va s'intéresser à cette question Facebook sur le site de Priorité Santé. Question d'Arnaud. Est-ce que la pilule du lendemain peut avoir des conséquences graves sur la santé de la femme? Cette pilule du lendemain, vous venez tout juste de nous en parler.
Eh bien, la pilule du lendemain, non, elle n'a pas de conséquences graves sur la santé de la femme. C'est la raison pour laquelle elle est en vente libre, sans ordonnance. C'est-à-dire que, en tout cas, en France, on peut aller se la procurer. On va dans une pharmacie, on dit « je voudrais une pilule du lendemain », on vous la donne sans rien vous demander. Enfin, on peut vous poser des questions pour savoir si vous en avez vraiment besoin, mais on ne peut pas vous la refuser pour des raisons de santé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication. Alors, pourquoi c'est comme ça alors que pour la pilule qu'on prend tous les jours, il faut voir un médecin, il faut une ordonnance, c'est que la pilule du lendemain ne contient pas d'œstrogènes. Donc, c'est des hormones qui peuvent avoir des effets indésirables où il y a pas mal de contre-indications. Donc, elle contient seulement un dérivé de la progestérone. Cela dit, il y a quand même des effets indésirables. Il y a des femmes qui vont avoir des nausées après. Bon, c'est pas très grave, des nausées, c'est gênant. Ou qui vont avoir, évidemment, des saignements qui vont se déclencher plutôt que les règles. Mais ça, c'est pas des effets graves. Le principal effet, je dirais, gênant de la pilule du lendemain, c'est qu'elle n'est pas efficace à 100%. Elle est nettement moins efficace que la pilule prise tous les jours. Elle évite 80% des grossesses en moyenne, c'est déjà beaucoup. Il y en a 80% de moins, mais c'est pas 100%. Donc, même avec la pilule du lendemain, il faut faire un test de grossesse 3 semaines après, de manière à être sûr qu'on n'est pas enceinte et savoir si on est enceinte.
Voilà pour cette réponse à la question Facebook d'Arnaud sur notre page Priorité Santé. Bien sûr, des questions que vous pouvez aussi poser sur notre répondeur en nous appelant au 33 84 22 75 75. Merci beaucoup, docteur Solano, sexologue, je le rappelle. Et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et Priorité Santé touche à sa fin. Demain, vos questions sur la nutrition et l'activité physique, avec en studio pour vous répondre le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, et le nutritionniste Stéphane Besançon. Vos questions au 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.